Ce matin, on va parler d'un sujet très important avec beaucoup de mauvaise compréhension dans le milieu chrétien. Et donc, il faut être clair, il faut être précis et d'être convaincu des choses qu'on croit. Ce matin, on va parler de l'enlèvement de l'Église et le deuxième venu de Christ. On va prier. Seigneur, ta parole est efficace et plus double tranchante, plus tranchante qu'une épée double tranchante, plus aiguisante. Seigneur, conduire, oint et bénis ce message. C'est pour notre bien, c'est pour notre édification. Et donc, demeure, convainc par ton esprit chaque auditeur, Seigneur. Merci. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Donc, on va parler de ces deux événements. L'enlèvement de l'Église et le deuxième venu de Christ. Versets 16 et 17 de 1 Thessaloniens chapitre 4. 1 Thessaloniens chapitre 4, versets 16 et 17. Car le Seigneur lui-même a donné un signe donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. On va lire un prochain verset. Matthieu chapitre 24, versets 29 et 30. 29 et 30. Aussitôt, après ces jours de détresse, le soleil s'obscurera, la lune donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lameront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Donc nous pouvons voir dans ces quatre versets deux événements. Il faut savoir, premièrement, si on regarde un peu qu'est-ce que s'est déjà passé et qu'est-ce que va passer, une image pour expliquer. Christ est crucifié, il a été crucifié, probablement, certains historiens pensent, année 32, probablement en avril, je crois vers le 8, 7 ou 8 avril. Année 32. À ce moment de mort et après le troisième jour de résurrection, on est maintenant en train d'entrer dans une période de 50 jours, 40 jours et 10 jours. Christ est resté sur la terre pour 40 jours après il a été ressuscité. Et après la partie, en Actes chapitre 1, il a resté 10 jours avant Pentecôte. à Pentecôte, Actes chapitre 2, le Saint-Esprit a descendu pour demeurer dans les croyants. À ce moment, c'est le début de l'Église. C'est le début de dispensation de l'Église ou la dispensation de la grâce. Une dispensation est une administration, c'est une période de temps unique quand Dieu fait des choses uniques. Dieu ne change point. Toujours le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Sa nature, sa caractère toujours demeure le même. Aucun changement par Dieu, mais changement dans le sens de les choses qu'il va faire envers l'homme. Le but toujours, la rédemption de l'homme, rédemption de l'humanité, sauver les âmes, montrer sa foi, sa fidélité, sa bonté, afin que le plus maximum possible de gens vont être sauvés. Donc, le début de l'Église, Pentecôte, Actes chapitre 2, c'est une période de temps que l'horloge et l'heure arrêtée dans le temps eschatologique. Ça veut dire qu'il y a un temps avec Israël et après il va être un temps de nouveau dans l'alliance avec Israël. Mais pendant 2000 ans, et on ne sait pas combien des années plus, nous avons l'Église, nous avons l'âge de l'Église. Dieu lui-même, le Saint-Esprit, habite, demeure, reste dans le croyant. Au moment de l'enlèvement, on va parler de l'enlèvement, cité dans ces versets, 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 16 et 17, également en 1 Corinthiens chapitre 15, versets 51 et suivant, se parle de le fait qu'il y a un moment avec un événement rapide sans avertissement. Qu'est-ce qui va passer dans cette journée? Un moment précis, Jésus-Christ va descendre pour chercher sa famille, pour chercher son épouse, pour chercher l'Église. Ça veut dire l'Église universelle sur la terre. Jésus-Christ, pour le moment, est assis au doigt de le trône de Dieu, le Père, en train d'attendre pour le moment qu'il va retourner pour nous chercher. Il est en train de, en Jean chapitre 14, versets 1, 2 et 3, de construire une demeure pour chaque croyant au ciel. Donc, pour le moment, ça c'est un projet de construction. Et qu'est-ce qui va passer? Il va, dans un moment précis, une trompette va annoncer, un archange avec une trompette, ça va être un indicateur de ramasser, de trouver tous les croyants qui sont vivants sur la terre. Cet événement aussi pour chercher ce qui reste des corps des croyants morts. Enterré, brûlé peut-être, mais l'ADN reste sur la terre, dans la poussière. Et Dieu connaît les cellules de nos corps. Donc, la première chose qui va passer, le mort, ceux qui sont morts, mes croyants, va être les corps pris et construits ensemble, mis ensemble, pour donner un corps glorifié à chaque croyant qui est maintenant à ce moment dans la présence de Christ. Vivant dans la présence de Christ, mais en train d'attendre pour cette cour. Donc, les corps vont être ressuscités et pris, premièrement. La deuxième chose qui va passer, ça va être que les croyants vivants vont être pris. Le mot utilisé est harpazo. C'est un indicateur de comment nous avons quelque chose avec rapidité et violence. C'est quelque chose, un acte pas agressif, mais violent, pour prendre rapidement avec force. Et cet verbe indique que chacun de nous, on va être pris rapidement, sans avertissement, dans un moment pressé. Donc, chaque croyant va être pris pour être enlevé, l'enlèvement. Est-ce que l'enlèvement a passé déjà? Oui. Élie, Ancien Testament. Enoch, chapitre 5 de Genèse, Ancien Testament. Deux événements que les gens sont enlevés. Également, nous avons Philippe, dans le livre des Actes, enlevé après le salut de l'eunuque éthiopien, à le baptême de cet homme. Philippe était enlevé et pris ailleurs. Il n'était pas enlevé pour être au ciel, il était enlevé de un point sur la terre pour aller dans autre point sur la terre, pour évangéliser, pour faire une œuvre évangélique. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose qui est déjà passé dans une certaine mesure. Mais cette journée de l'enlèvement, ça va être une journée que tout le monde, les croyants, les sauvés, qui fait confiance dans le Seigneur Jésus-Christ, dans les chrétiens, enlevés dans un moment précis, sans avertissement. Jésus va descendre sur, pas pour placer ses pieds sur la terre, il va être invisible. Donc, un mot-clé ici, que l'enlèvement est un acte invisible. Le seul indicateur sur la terre, ça va être l'absence de chaque chrétien. On ne sait pas quel est l'état de la terre dans ce moment et qu'est-ce qui va passer avec les disparitions, les gens qui disparaissent, enlevés, qui ne sont plus là sur la terre. Est-ce qu'il va laisser des choses? Évidemment, oui. Les églises fermées, personne là. Téléphone, quelqu'un en train d'appeler, le croyant n'est plus là. Les factures pas payées. Avec le temps, ça va être un indicateur qu'un grand nombre de gens sont complètement plus là sur la terre. C'est fini. Et donc, le monde va continuer de tourner, les gens vont continuer de vivre, mais sans l'Église. C'est le moment que l'Église a parti. Dans ce moment, chacun va être dans les nuées avec Dieu parce que Jésus-Christ va descendre de le niveau de la montagne, le niveau de les nuées, il va rester dans les nuées, invisible. Et chaque croyant va être réuni ensemble. Donc, c'est la première fois que l'Église universelle, ceux qui sont au ciel et ceux qui sont sur la terre, va être réunis pour éternité. Donc, c'est le premier moment de ça, une grande réunion, un joyeux. Nous avons maintenant un noce de l'agneau. Ça veut dire le mariage et la célébration de Christ et son Église. Ça va passer probablement pour 7 ans. Donc, 7 ans, Christ et chacun de nous ensemble pour fêter et pour être ensemble avec lui. Donc, c'est un moment de joie. Et ça va passer pour 7 ans. Pendant cette période, nous avons une période qui s'appelle la tribulation. 7 ans sur la terre, le premier 3 ans et demi, paix et une unité énorme par les habitants sur la terre. Mais plus aucun chrétien, pas des églises, et probablement la religion continue. Mais maintenant, nous avons un caractère qui s'appelle l'Antichrist. Cet personnage prophétisé dans l'Ancien Testament, prophétisé dans le Nouveau Testament, va contrôler le monde. Il va utiliser son personnalité, sa charisme, pour attirer les gens vers lui. Il va être la solution pour tous les problèmes de l'humanité. Et donc, bien sûr, les gens vont adorer cet homme. Va finalement, à la fin de la première 3 ans et demi, il va être dans le temple reconstruit à Jérusalem par les Juifs, par Israël, et il va être assis, placé dans le lieu très saint. Il va rester là, il va déclarer qu'il est Dieu. Et donc, de ce moment, nous avons un déclenchement de la dernière 3 ans et demi, 21 jugements par Jésus-Christ, par Dieu lui-même, contre un monde qui a rejeté, qui a rejeté Dieu. Donc, 21 jugements, un après l'autre, plus pire, de plus en plus pire, pour attirer l'attention afin que les gens va tourner vers Dieu et pour un jugement contre un système mondial qui est opposé de Dieu, sa caractère et sa nature, en opposition, en rébellion. Donc, nous avons 7 ans qui va passer. À la fin de 7 ans, nous avons le deuxième événement qui va être déclenché. Nous avons déjà cité le verset, c'est cité aussi en Daniel chapitre 7, verset 13, et c'est noté en Matthieu chapitre 24, c'est noté en Apocalypse chapitre 1, cité par l'apôtre Jean, qui cite en fait Daniel chapitre 7. Donc Jésus-Christ va être révélé. Il va être des indicateurs du ciel, il va être le manque de lumière par le soleil et la lune. Donc, ça va être dramatique pour les habitants de la terre. Et à ce moment, Jésus-Christ va progressivement être révélé afin que chaque œil, chaque personne va voir le oui en train de descendre pour arriver et d'être établi pour sa royaume sur la terre. Il va régner. Il est un roi qui maintenant prend possession du royaume. C'est un moment de terreur pour les habitants. Pourquoi? Parce qu'à ce moment, il est visible et c'est clair que ses vies sont un mensonge d'accepter quelqu'un qui dit qu'il est Dieu, mais qui est clairement le diable incarné. Donc maintenant, nous avons une réalité, une vérité présentée devant eux. Et en Apocalypse chapitre 19, nous avons une bataille. Jésus-Christ, lui qui est véritable et fidèle, il va descendre sur un cheval blanc. Il va entrer dans une bataille avec l'Antichrist et ses armées vers Jérusalem, certainement en Israël. Il va être un énorme massacre. Et l'Antichrist et le faux prophète, son deuxième homme, va être placé vivant en enfer, dans le lac de feu, pour éternité. Et Christ va commencer à régner pour 1000 ans sur la terre. Donc nous avons ces 2 événements, et nous avons à la fin, une reality, on dit en anglais reality check, quelque chose qui va montrer que tout le monde qui a refusé Christ pour une raison ou l'autre, qui a tourné le dos, qui a profité des 7 ans, maintenant sont confrontés avec un Dieu. Un Dieu, ils ont refusé. Et ça va être un jugement final pour les gens qui n'acceptent pas cet enfer. C'est un jugement, c'est un dernier jour pour eux. Et ce monde va finir dans la réalité qu'on voit aujourd'hui. Ça va être un monde complètement différent. Qu'est-ce qu'on peut dire en regardant ces fêtes? Que nous sommes une église sur la terre pour une raison. Bien sûr, on ne sait pas exactement le jour. Comme un voleur, Jésus-Christ va venir dans le soir, dans la nuit, pour voler, pour enlever. Donc, cette idée d'un voleur inconnu, imprévisible, qui arrive pour enlever. Harpazo. Harpazo dans le grec. Un enlèvement rapide, sans avertissement. Le deuxième, parousia, utilisé un certain nombre de temps, 17 fois dans la signification pour le deuxième venu de Christ. Donc, deux mots différents pour deux événements différents. Mais on va vivre avec ces deux événements. Parce que si on est mort avant Christ retour, avant l'enlèvement, on va être, nos corps, évidemment, vont être enlevés. Et on va être réunis avec nos frères et sœurs dans les nuées avec Jésus-Christ. Donc, on va participer dans une forme ou l'autre dans cet enlèvement. On va participer également dans le deuxième venu de Christ, parce que quand Christ descend en Apocalypse chapitre 19, pour retourner, pour régner, avec lui, en ce même chapitre, ses armées descendent avec lui. Jude, dans la lettre de Jude, parle plus de précisément des saints, des croyants. Ça veut dire l'Église, ça veut dire chaque croyant qui a vécu 2000 ans, dans le 2000 ans, entre Pentecôte et l'enlèvement, va être avec Jésus-Christ pour descendre sur le cheval blanc, pour voir et participer dans cette bataille peut-être. C'est certain que Christ va participer. Nous, on n'est pas sûr de notre participation, mais on va être certainement les témoins de son victoire contre le diable, contre l'Antichrist. Donc, c'est important de comprendre ces choses pour certaines raisons. À la fin de 1 Thessaloniens chapitre 4, on peut être consolé. On peut être consolé. On va lire le verset pour être clair. Verset 18. Après, il a expliqué tout ce qui va passer. Verset 18 de 1 Thessaloniens chapitre 4 va dire: consolez-vous donc les uns et les uns les autres par ces paroles. C'est une consolation pour nous. Parce qu'on est dans un monde avec un avenir incertain et le gens ne sait pas qu'est-ce qui va passer. C'est une crainte, c'est une insécurité, c'est une peur. Les gens cherchent pour une assurance. L'Église de Dieu, chaque croyant peut avoir cette assurance et être consolé. On connaît la fin de l'histoire. On connaît le Dieu qui va être avec nous jusqu'à la fin. On ne connaît pas les détails et les événements précis entre ces événements, entre le moment de nos vies maintenant sur la terre et son enlèvement. Est-ce qu'on va mourir avant? Est-ce que ça va passer demain ou dans 5 ans? On ne sait pas. Mais on peut rester assuré de marcher devant Christ, devant notre Dieu, de demeurer avec lui, d'être rempli avec le Saint-Esprit, de continuer d'évangéliser. C'est la raison qu'on évangélise. Parce qu'on va être des témoins de les choses qui vont passer. On va voir ce qui va passer avec les jugements contre ce monde. On va voir la victoire de Christ. On va voir les gens envoyés en enfer. Et c'est maintenant de parler. C'est maintenant de déclarer. C'est avec une douceur, bien sûr. C'est avec amour. Mais il y a certains moments pour parler peut-être avec un peu de fermeté, de confronter quelqu'un avec un mot et de pour dire, écoute, ça c'est l'avenir. Vous pouvez croire ou croire pas, mais c'est la réalité. Votre sincérité n'est pas une assurance. C'est la vérité qui est l'assurance. C'est le Dieu de notre, c'est notre Dieu Jésus-Christ qui est notre assurance. Et donc le croyant peut rester en assurance parce qu'on connaît la fin. Et on sait en Jérémie 29, verset 11, nous avons un bon fin pour nos vies. Et donc, c'est de nous équiper pour la réparation pour ces fins de temps. On est dans ces moments de douleur. C'est le commencement de douleur. Et c'est la saison. On est peut-être dans cette saison. Il y a une date significative, très significant, 1948, l'État d'Israël restauré. Nous avons maintenant dans l'horloge et le temps, saison eschatologique, nous avons Israël maintenant, de nouveau un État en existence. Et on peut voir tout ce qui a passé autour d'Israël et en Israël à cause de ça. Les batailles, les guerres, etc., les tensions dans le Moyen-Orient. Israël est un indicateur du fin de temps. Les choses qui passent en Israël sont importantes pour l'Église, importantes pour le monde. Le regard de Dieu est vers Israël et aussi vers son Église. Consolation, assurance, paix, sécurité, amour. Et de ces choses, on peut servir les autres, on peut encourager les autres, on peut édifier le corps de Christ, on peut amener les chrétiens qui tombent, les chrétiens charnels, pour se réveiller et de regarder le temps qu'on est en train de passer, les choses qui passent, afin qu'on est prêt pour son retour. Et on peut toucher les non-croyants, ceux qui restent dehors, qui n'ont aucun espoir. On a un message d'espérance. Ça, c'est la raison qu'on parle de ces choses aujourd'hui. Si c'est, ça, c'est important comme ça, c'est important de communiquer. C'est important de vivre selon ces vérités. On est un peuple qui doit être prêt pour le retour de Jésus-Christ. Soyons un peuple prêt. Que Dieu vous bénisse.